Avant de commencer l'émission, petit message pour vous dire que nous serons en live le vendredi 12 avril à 19h30 à Paris, au Club de l'Étoile, pour vous diffuser Les Ailes de l'Enfer de Simon West, suivi d'un enregistrement d'un podcast en live. Informations et réservations dans la description de l'épisode. Et merci encore au Club de l'Étoile de nous accueillir pour ce premier live. Dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire, du cinéma réalisé par un mec dont c'est fait d'armes et de faire des blagues de caca, pipi et de sperme, et pourtant, trois Oscars, dont celui du meilleur film, un plébiscite incroyable avec des gigantesques conneries qu'on pouvait lire comme chez Télérama, qui parle carrément d'une ode subtile à la tolérance, un public conquis et forcément acquis à la cause, mais ce gigantesque traquenard au doux nom de Green Book illustre malheureusement parfaitement les limites de l'exercice filmique quand il s'agit d'aller à la pêche aux Oscars, avec le méthode acting, la mise en scène académique, une charge politique allant dans le sens du vent. Et aussi un autre problème que les États-Unis n'arrivent pas à se dépêtrer, le racisme, mais également sa fâcheuse tendance à vouloir nettoyer son histoire ségrégationniste en mettant en scène des hommes blancs qui se rendent compte que juger et maltraiter les hommes noirs, eh ben c'est vraiment pas bien. Et finalement, si on mangeait tous du poulet autour d'une table en écoutant du jazz, le monde irait beaucoup mieux. Et pourtant, pourquoi le film a fonctionné, pourquoi il peut mériter la shitlist, c'est ce qu'on va essayer de déterminer dans ce podcast. Je suis Luc Lodéliac et aujourd'hui avec moi, pour jouer les chevaliers blancs des internets, Marvin Montes, auteur, podcasteur sur Flash Forward, et Il s'agirait de grandir, dont il y a eu un dernier épisode qui est sorti sur Scarface, il me semble.
Effectivement, après presque un an. Voilà, on a décidé que ce serait un podcast annuel. Hein. Enfin, on l'a pas décidé.
facile à gérer.
Un podcast annuel. Mais en tout cas, je peux vous assurer qu'on fera un podcast subtil et humaniste ce soir.
Que du cœur.
Oui, oui, oui.
Nous, franchement, on voit pas les couleurs.
Le green
envie de te dire, Marvin.
C'est le green podcast
voilà.
Ce soir.
C'est le green podcast.
Voilà.
Exactement. Je vais juste te demander la question parce que c'est quand même un truc assez énorme. Parce que là, je te le dis, c'est le frère Farrelly qui réalise ce film. Et Farrelly, c'est les frères Farrelly,
ouais,
qui ont l'habitude, au moins dans les années 90-2000, ça a été leur grand moment, c'était vraiment de faire de la comédie toute pourrie. Et je voulais te demander, Dumb and Dumber, toutes ces conneries, comment tu te situes face à
alors,
ça?
Alors en fait, moi, je suis passé à côté de ce truc. Voilà, clairement,
ah oui.
J'ai esquivé la bullet time, quoi. Voilà.
Ouais.
Je me suis presque allongé, c'est passé au-dessus, en dessous. Donc en fait, j'ai découvert Marie à tout prix, par exemple, très tard. Tu vois.
Ouais.
Et il ne faut pas faire ça.
Et même trop tard, peut-être. Ouais, c'est ça, le truc, en fait.
Ah ouais, non, mais il ne faut pas faire ça. Clairement. Donc, en fait, moi, je pars du principe que, de toute façon, leur cinéma... Alors, j'allais te dire, il a mal vieilli. Mais non. Parce que Green Book est vieux, littéralement, la minute d'après sa sortie, tu vois. Donc,
oui, voilà, il est déjà ringard. Final,
voilà. Donc, je pense que c'est normal. Donc, oui, non, mais en vrai, oui, je pense que tout ce qu'ils ont fait a terriblement mal vieilli, c'est quasiment sûr. Après, je ne peux pas trop en juger, parce que je crois que je n'ai jamais vu Dumb and Dumber, tu vois. Par
pas
exemple, je crois que j'ai vu que Marie à tout prix, en fait. Je sais pas ce qu'il y a de... Food Irene, j'ai jamais vu, tu vois. Tout ça, j'ai jamais vu.
Carré, je crois, oui.
Voilà, ouais, tout ça, j'ai jamais vu. C'est vraiment des trucs qui me sont passés... Voilà, moi, je...
Par-dessus, ouais.
Voilà, donc non, j'ai pas vécu ça et je m'en plains pas.
Mais non, mais c'est bien. Dumb and Dumber, je l'ai vu, j'ai trouvé ça nul. Mais aussi, c'est parce que j'ai un problème. Donc, j'ai un problème déjà avec l'humour des Farrelly, parce que j'avais vu dernièrement, enfin, ça, je l'ai revu. C'était fait ça avec ma meuf, c'était L'amour extra large. Qui était avec Jack Black et Gwyneth Paltrow. C'était horrible, ce film.
Ah oui, c'est horrible.
Et ça a très très bien vieilli, pour le coup. En plus, plus le tacle, en fait, du fait des années qui lui ont mis dans la gueule. Mais il y avait... c'est un Dumb and Dumber, c'est un truc que j'ai pas aimé. Food Irene, j'ai pas vu. Mais je crois qu'il y avait aussi My Movie Project, qui était Movie 43,
My Movie
exemple.
Project, ah oui, c'est vrai qu'il y avait ce truc.
Alors, c'est un truc, c'est un film à sketch où il y a plusieurs réalisateurs qui se foutent dedans. Et c'est lui
ils
qui s'attend de ce projet de film imblairable. Mais et puis c'est Dumb and Dumber après a quand même eu une espèce de...
En fait, je pense qu'il faut peut-être se dire que je pense pas que ce soit des réalisateurs très très marquants, dans le sens où je pense qu'ils doivent succès à des acteurs un peu spontanés, tu vois, un peu dans...
Bah, Marie à tout prix, Cameron Diaz, Ben Stiller, ça a fait
Tu
vois, début 2000. Mais Marie à tout prix, c'est un des, j'ai des souvenirs de ce film où peut-être à la fameuse scène marquante que tout le monde connaît où l'autre il se branle,
oui,
et en fait,
voilà,
c'est pas où il l'a foutu.
Des blagues de bite, quoi. Bon.
Ouais, voilà, mais, non, mais c'est ça, c'était leur fond de commerce, et c'est vrai que, bon, on en reparlera dans l'émission, mais de voir le frère Farrelly, tu sais, genre 20 ans plus tard, essayer de faire un film Touche pas à mon pote.
Ouais, ouais. Il a fait une comédie involontaire, c'est un peu dommage.
Alors, on dit dans le chat, Guillaume dit, le Dean, c'est leur Ciao Pantin, un petit peu, ouais, mais c'est le Ciao Pantin dedans.
Ils ont pas refait un truc là,
l'autre a pas osé.
Il n'y a pas un truc qui s'appelle Ricky Stanicky, du coup, qui est ressorti, là,
si, si,
avec John Cena,
si.
J'ai pas vu, hein. Par contre, j'étais mal
pas
scène,
allé,
dans... ça va arriver.
Non, mais vous aurez compris qu'on n'a pas platiné les Farrelly, et que par préservation de la santé mentale, quelque part, aussi.
Franchement, non, on n'a pas fait ça. Et on...
Donc, on va vous mettre la bande-annonce qui dure 3 minutes de Green Book.
Oh, putain.
Pour vous mettre bien dans l'ambiance, nous, on va pouvoir faire une petite pause tranquillement.
Ouais. Il y a un gars qui vient d'appeler, un docteur, il cherche un chauffeur. Ça t'intéresse ?
Je ne suis pas docteur en médecine. Je suis musicien, je suis sur le point de partir en tournée dans le sud profond. Quel genre d'expérience avez-vous ?
Les relations publiques.
Verriez-vous un inconvénient à travailler pour un noir ?
Vous, dans le sud ? Ça va causer des problèmes.
Promets-moi que tu m'écriras.
C'est promis. Dites pas que ça sent pas bon, ça.
Je n'ai jamais avalé de poulet frit de toute mon existence.
Mais les gens comme vous adorent le poulet frit.
Vous avez une vision de moi plutôt étriquée, Tony.
Ouais, je sais. Je suis un malin.
Nous allons fréquenter les personnes les plus riches du pays. Alors je pense que vos manières gagneraient à être plus raffinées.
Oh, mais pourquoi vous me les voyez menus ?
Parce que vous valez mieux que ça, monsieur Vallelonga.
Cher Dolores.
J'ai vu Dr. Shirley jouer du piano. C'est un génie, je crois.
Tenez, mangez un bout.
Je préfère ne pas mettre de gras sur ma tenue.
Ou je veux pas mettre de gras sur ma tenue.
Ce monsieur dit que je ne peux pas dîner ici.
J'ai bien peur que non. Comment il fait pour rester aussi aimable ?
Il faut du courage pour changer le cœur des gens.
Qu'est-ce que vous faites ?
Une lettre.
Je peux voir. Cher Dolores, des fois tu me rappelles la maison. Vous êtes conscient que c'est lamentable ? Prenez note. La distance qui nous sépare dévaste mon âme. Tomber amoureux de toi
a été la chose la plus facile du monde.
PS, embrasse les gosses.
C'est comme klaxonner à la fin de la 7e de Shostakovich.
Et c'est bien ?
Parfaitement bien, Tony.
Sortez des voitures !
On ne gagne jamais grâce à la violence. On ne gagne qu'en gardant sa dignité.
Vous connaissez pas les vôtres ? Vous, monsieur, je me la pète qui fait des concerts pour les Rupins.
Si je suis pas assez noir et aussi pas assez blanc, alors je suis quoi ? Dites-le-moi !
Tout le monde peut faire du Beethoven. Et votre musique ? Ce que vous faites, vous ? Y a que vous qui pouvez le faire.
Et que fait-on avec les restes ?
On fait ça.
Ramassez, Tony.
Les écureuils le boufferont de toute façon.
Ramassez.
C'était donc 3 minutes de bande-annonce pour Green Book. J'espère que vous avez apprécié.
Déjà, les gens qui ne sont manifestement plus racistes, hein. Juste après la bande.
Ah ben, bah je pense qu'on a, ouais, on a réussi à changer les gens, Marvin. On a réussi à changer les gens.
Voilà.
Et ça, c'est bien. Alors, Green Book, sorti en septembre 2018, réalisé, coécrit et coproduit par Peter Farrelly avec un budget de $23 millions, aidé par DreamWorks et distribué par Universal. Le script est inspiré d'une histoire vraie et basé sur les lettres et interviews de Donald Shirley et Frank Vallelonga. Le scénario est écrit avec l'aide du fils de Frank Vallelonga, Nick. En 62, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, interprété par Viggo Mortensen, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le docteur Don Shirley, un pianiste noir et renommé mondial, sous les traits de Marshall Ali. Lors d'une tournée de concert, durant leur périple de Manhattan jusqu'au sud profond, ils doivent se confronter aux humiliations, perceptions et persécutions tout en devant trouver des établissements accueillant les personnes de couleur. Et alors, ce road trip ne touche pas à mon pote. Marvin, comment tu l'as vécu, cette expérience ?
Bah, j'étais dans la voiture avec eux, évidemment. Hein, je...
Ouais, j'étais dans cette voiture.
C'est une telle incompréhension, je crois. Je sais pas. C'est vachement difficile. Je vais commencer par dire ce qui va. Hein, ça ira plus vite.
Vas-y.
Voilà. Non, surtout pas. Vraiment pas. Mais non, j'ai envie de vous dire que le film n'est pas totalement dénué de qualité, on va dire, involontaire. Voilà, j'aurais tendance à dire ça. J'ai relevé deux choses. Je pense qu'il y a un travail à la photo qui est relativement honorable. Le film n'est pas moche. Ça va, je crois que c'est Sean Porter, il me semble. Enfin, je crois. Mais c'est pas moche. Et il y a Mahershala Ali et il y a Viggo Mortensen. Donc ça veut dire que tu les mets tous les deux dans une pièce vide, ça marche. Tu mets des gens talentueux ensemble.
C'est deux bons acteurs en soi. Ouais.
Donc en fait, c'est un peu la logique de la carrière probablement des Farrelly, c'est-à-dire de pouvoir compter à un moment donné sur un acteur ou deux qui s'en sortent bien, ce qui fait que ça te sauve plus ou moins le film, parce que dans la continuité de ce qu'on disait au début, il n'y a absolument rien du tout de marquant en termes de mise en scène. C'est un truc complètement fonctionnel qui cherche absolument à rester inoffensif, à pas prendre de risques. Enfin, voilà, je veux dire, c'est correctement cadré, c'est pas moche à regarder. Voilà, le film fait rien, hein. C'est juste fonctionnel. Il a beaucoup, 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 énormément d'autres problèmes. C'est surtout, bon, vous l'aurez tous compris, c'est ce qu'il raconte et c'est comment il le raconte. Donc, bon, oui, Green Book, c'est l'histoire d'un pianiste noir extrêmement, extrêmement connu qui va devoir partir en tournée pendant 2 mois dans le film, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça, 2 mois, ouais.
Avec son chauffeur italo-américain, qui va donc l'emmener sur les routes du sud raciste des États-Unis et lui expliquer comment faire pour être un bon, comment on dirait, un bon membre de sa
un
communauté,
bon citoyen.
C'est ça ?
Oui, voilà. Ouais,
noir,
ouais.
Voilà. C'est compliqué quand on connaît en fait l'histoire du film, parce que oui, on va y revenir un petit peu après. Évidemment, le film est un gigantesque truc de white savior, et je pense que là, pour le coup, c'est compliqué pour nous d'en parler parce qu'on n'est pas totalement concernés, je pense que vous l'aurez compris. Hein.
Ouais.
Mais quand on regarde la critique, notamment la critique américaine, parce que pour le coup, il y a une critique américaine noire, afro-américaine, voilà, parce que vous saurez qu'en France, la critique noire, c'est interdit, je pense. Donc voilà.
ça a été banni. Ça a été banni dès 40 ans.
Ça a été interdit. Donc voilà. Par contre, aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a quand même, une représentation qui est un peu plus étendu, on va dire.
Ouais, bien sûr, sur les pluralités d'opinion.
Et donc, oui, le film a été cloué un petit peu au pilori en tant que gigantesque film de white savior. Et c'est vrai qu'en le regardant avec le recul et avec les quelques articles qu'on a eu à disposition sur la fabrication du film, c'est compliqué de le contester, quoi. Parce qu'il faut déjà commencer par le problème numéro 1, c'est que l'histoire, elle est racontée du point de vue, donc, de Tony Lip, puisque dans la réalité, c'est son fils qui a raconté l'histoire. Voilà.
Oui, c'est ça.
Donc son fils,
du coup, qui reprend l'histoire de son père pour la réécrire, et on imagine un peu plus clean, voilà, peut-être, que ce qu'il racontait.
Il a écrit ce qu'il nomme lui-même comme étant la légende familiale. C'est-à-dire que ça porte assez bien son nom. C'est la légende familiale. Voilà. Donc c'est absolument pas quelque chose d'authentique ou quoi que ce soit. Donc vous allez avoir l'histoire du un peu raciste pendant 5 minutes, mais finalement plutôt sympa, Tony Lip qui va tout faire pour aider ce pauvre musicien qui, rendez-vous compte, il est déjà victime du racisme, mais en plus, il est ostracisé par sa propre communauté, parce que, vu qu'il essaie de se comporter comme un espèce de citoyen totalement assimilé, sa communauté aussi le rejette. Voilà. Donc en fait, il faut prendre un petit peu tout ça, essayer de se rendre compte de ce qui est vrai ou pas, et on se rend assez vite compte qu'il n'y a absolument rien de vrai là-dedans, du coup, quoi. Le premier gros problème étant que manifestement, tous les deux n'ont jamais vraiment été amis. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui ressort assez souvent, notamment de la famille du docteur Shirley, qui tient quand même à préciser qu'ils n'ont jamais été amis, qu'ils avaient une relation employeur-employé. Alors ils ont eu une certaine relation qui s'est créée au fil du temps parce qu'ils sont restés un an et demi ensemble dans la vraie vie, ce qui n'est pas les 2 mois du film. Donc forcément,
oui, parce qu'il était employé,
développer...
il était encore employé, pas ami, il était encore employé après
cette aventure-là. Ils
n'étaient
vraiment pas amis, donc voilà, ils n'ont pas dû s'apporter, enfin en tout cas je ne pense pas que lui ait apporté tant de choses que ça à Shirley. Et le deuxième gros problème, c'est que vraiment, le film le traite, comme on a dit, comme un noir qui serait à la fois victime du racisme, mais aussi du rejet de sa propre communauté, parce qu'il ne s'intègre pas dans certaines normes ou je ne sais pas quoi. Ce qui est apparemment
Parce qu'en gros, il y a ce délire aussi, parce qu'il y a un plan dans le film, on en parlait en off, qui nous avait halluciné, c'est qu'à un moment donné, il s'arrête parce qu'il y a une panne de bagnole.
Mais du coup, t'as ce truc aussi qui est apparemment, je pense, le plus grand mensonge du film, de Shirley qui n'est pas accepté par la communauté afro-américaine parce qu'il ne fait pas partie de leur monde, en fait. Ce qui, apparemment, selon sa famille, était encore une fois totalement faux. Voilà, il avait beaucoup de rapports avec d'autres musiciens très connus de l'époque, des musiciens noirs, et ça, enfin, il n'est absolument pas ostracisé comme on le voit dans le film. Et c'est un vrai problème parce que ça change vraiment tout le propos du film. Parce que le film en lui-même, c'est notre cher chauffeur italo-américain. Alors, je ne sais pas si on dit blanc ou pas, parce que c'est vrai que à une certaine période des États-Unis, on ne considérait pas les Italo-Américains comme des blancs à 100%. C'était aussi
non,
compliqué.
C'est pas une communauté minoritaire
mais bon,
aussi. Hein.
Le film ouais. a quand même assez vite fait oublier ça, je trouve. Voilà, il va appuyer très très fort sur le cliché terrible de l'Italo-Américain aussi pendant 10 minutes. C'est assez compliqué à voir. Et puis après, bon, on est vraiment sur un point de vue full blanc, il n'y a pas de problème. Et donc, il va tenter de ramener le docteur Shirley dans le droit chemin. Pour appartenir correctement à la communauté noire et de manière assez gênante. Hein. C'est vraiment tout le problème du film. Il y a quelques scènes qu'on a tous relevées qui nous ont tous fait un petit peu cringer à mort. J'imagine que si vous voulez revenir sur l'histoire du poulet frit, par exemple.
l'histoire du poulet frit, c'est que il ne mange pas de poulet frit, c'est ça le docteur
Alors,
Shirley.
Le docteur Shirley, du coup, vu que vous comprenez, il essaie de s'intégrer dans une totale blanchitude, donc il ne mange pas de poulet frit. Heureusement, on a notre cher Tony Lip qui dit « mange du poulet frit quand même, enfin, c'est quand même pas normal que tu ne manges pas de poulet frit », et puis forcément, bon, il adore ça. Il y a ce moment où ils écoutent du jazz, Aretha Franklin, tout ça, mais comment ça, vous ne connaissez pas, c'est quand même vos congénères, voilà, il y a ça qui sort. Il y a un autre truc terrible où à un moment, la voiture tombe en panne, il se retrouve devant un champ. Il y a des noirs qui travaillent dans le champ. Le docteur Shirley sort, les oui. regarde. La musique d'Alexandre Desplat, qui porte toujours aussi bien son nom d'ailleurs, se lance.
Ah ouais, c'est horrible.
Et là, vraiment, je. Oui, oui. Alizé s'est caché.
Les regards entre les gens sur les champs de Compton et lui, le regard lointain en disant. Ma patrie, je ne sais pas.
Ouais, c'est un peu chelou, quoi. Super dur. Et les deux autres. Alors, il y a aussi. Le on va dire la conclusion de la conclusion du truc à la fin en fait il lâche le fameux concert le point d'orgue de la tournée oui. pour finalement se retrouver dans un club
dans
de jazz
oui.
Où finalement il va pouvoir s'épanouir parce que vous comprenez c'est bien laquer son monde voilà et puis vraiment enfin je pense que vraiment le clou final dans le cercueil c'est les 5 dernières minutes quoi c'est-à-dire que t'as Shirley qui finit par rentrer chez lui. Et là, oui. il y a un symbolisme involontaire qui est terrifiant, c'est-à-dire qu'il se retrouve au milieu de son appartement, qui est rempli d'objets qui font référence à la culture africaine quand même, donc des défenses d'éléphants, ce genre de choses.
Non, mais c'est vraiment très cool, bordel, hein. C'est vraiment
et non, mais on en est là, vraiment. Et du coup, en fait, il est seul au milieu de cette culture, et qu'est-ce qu'il va finalement devoir faire ? Bah, c'est retrouver la famille de White Savior, enfin, la famille de son pote White Savior à Noël. Une famille de blancs total qui va totalement l'accepter. Et ça, c'est vraiment le clou final dans le cercueil du film, quoi. Tu vois ? Donc, en fait, c'est très embêtant. Et d'ailleurs, merci de nous avoir précisé ce qui rend le truc encore plus horrible, hein, Golgothès, qui a nous précisé que la famille de Shirley disait que son homosexualité était totalement inventée.
Oui, oui, c'est pareil.
On n'est plus à sa prime, j'ai envie de dire, c'est chaud quand même. Donc, voilà. voilà où on en est. Voilà où on en est sur ce genre de truc. Donc, moi, ma question, elle est délicate parce que je pense que du côté de la famille de Vallelonga, il y a quand même une réelle volonté de nuire. On ne pourra pas me l'enlever de la tête, tu vois. En tout cas,
de lever la famille, tu vois.
D'imposer son point de vue.
Ouais.
Et donc, on est sur une vraie intention de White Savior, c'est-à-dire qu'en imposant son point de vue et en jouant à l'antiraciste, bah, on finit par faire du colonialisme, hein, ni plus ni moins.
Ouais, bien sûr.
C'est ce qu'on fait. Alors, du côté de Farrelly, je sais pas. Voilà. Là pour le coup, je sais pas. Est-ce qu'on est plutôt dans une maladresse suprême Je sais pas.
Oui, je pense que c'est simplement une connerie. Hein. C'est une connerie.
Sais pas.
C'est une connerie.
Moi, j'ai envie de donner le bénéfice du doute aux gens. J'ai envie de te dire qu'il a pas forcément volonté de nuire ou qu'il s'en rende pas compte ou je sais pas. Ou c'est juste que en étant un peu prisonnier de son point de vue de full blanc, tu te rends pas compte des bêtises que tu fais. Tu vois, voilà. Pour moi, c'est un. C'est un prophème qui a lu un livre de Mona Chollet, tu vois, et puis... non mais voilà, tu vois, il a lu Sorcière et il va raconter aux femmes comment être féministe. C'est un blanc qui...
j'ai lu Virginie Despentes, c'est bon, je suis déconstruit.
Ouais voilà, c'est un blanc qui te dit que Lily Gladstone n'a pas eu l'Oscar et que c'est grave, tu vois, ou...
Ah oui, oui, oui. Ah, ça,
c'est,
oui.
C'est un bourgeois de gauche qui est devenu fan d'Aya Nakamura depuis un mois. Voilà, pour moi, c'est ça. En fait, c'est vraiment ce genre de truc. Je trouve toujours ça très gênant parce que. Bah parce que vous vous en rendez pas compte, mais vous parlez à la place des gens qui sont probablement plus concernés que vous, quoi. Donc c'est vraiment l'effet que me fait ce film-là. Et c'est pas surprenant, quelque part, qu'il ait chopé un Oscar, parce que c'est vraiment le... Bah, c'est la fête du signalement de vertu, quoi. C'est-à-dire qu'une fois par an, y a une académie qui se dit... On va quand même leur donner un petit os parce que le reste de l'année, on fait quand même pas grand chose pour eux. Donc voilà.
Oui, enfin, voilà. Ouais.
Et en récompensant un pseudo-film antiraciste réalisé par un blanc qui porte un regard complètement néocolonialiste sur un truc qu'il entend dénoncer. Ce qui est complètement dingue. Hein. Et voilà. Et moi, je suis extrêmement surpris quand même par rapport aux réactions du public, en fait.
Et c'est unanime. C'est quasiment unanime, parce que quand tu regardes sur les agrégateurs et tout, c'est un film qui a des super notes, c'est un film qui est beaucoup apprécié, c'est un film dont on ne questionne pas en fait le point de vue, dont on dit « Ah putain, c'est génial, oh, cette amitié au travers des États-Unis ségrégationnistes, oh là là, c'est
mais
beau !»
Mais c'est un vrai film à Oscar pour le coup, quoi, tu vois, c'est un vrai film de culpabilité gênante, en fait.
Oui, voilà, c'est ça. De révisionnisme, encore une fois.
Ouais, voilà. Et puis, d'espèces de fausses culpabilités auxquelles tu penses une fois par an et le reste de l'année, tu l'oublies, quoi. Donc, donc non, je trouve ça très, très gênant. Là, c'est pour ça que j'étais assez surpris de voir les réactions sous les tweets qu'on a mis avec beaucoup de gens très, très unanimes qui trouvaient ça fabuleux. Et en plus, qui nous disaient qu'en plus, c'était une histoire vraie, donc il n'y avait pas de problème. En fait, au bout d'un moment, moi, je pense que si t'es vraiment, je pense que si t'es blanc, que tu regardes ça, que tu trouves ça super et que tu te renseignes pas 5 minutes sur la véracité ou pas de ça, t'as peut-être un problème quand même, tu vois. Je veux dire, je pense que c'est difficile de recevoir ça et de le trouver fabuleux et de pas y voir quelque chose de très gênant en 2024. Enfin, je veux dire, voilà. Un peu de recul peut-être et au moins se renseigner 5 minutes parce que c'est évident quand tu prends un peu de recul que ça peut pas tenir cette histoire, tu vois, je veux dire, Miss Daisy et son chauffeur, quoi, c'est littéralement le même film,
c'est le 2 en fait, c'est le volet numéro 2,
c'est littéralement le même film, c'est pareil. Et ils ont gagné l'Oscar tous les deux. Tu dis quand même que bon, bah, c'est chaud, quoi.
Donc, t'as une recette, finalement. Tu vois, tu sais que t'as une recette, en fait. C'est ça qui est terrible.
Ouais, bien sûr.
C'est une recette qu'ils ont chourée quasiment au cinéma français en disant « Eh, regardez, on prend notre histoire américaine qui est compliquée et on prend le cinéma français voilà, où c'est deux classes sociales qui s'opposent sur un problème lourd de société.
Ouais,
et
sûr,
en fait,
ouais.
c'est le parfait. » La chimie,
mais bon,
pour Oscar.
Voilà, je le disais en off en intro et je continuerai de le dire, mais je pense que si vous n'êtes pas concerné, ne vous mêlez pas de cette histoire, quoi. Je pense que le problème, il est là. Hein,
oui.
Laissez les gens concernés s'exprimer, vraiment, il ne faut pas y aller, c'est trop casse-gueule et vous allez faire de la merde. Enfin, je veux dire, clairement, c'est pas la peine, tu vois.
Ouais, c'est pas votre guerre, quoi.
Parlez pas pour eux. Éventuellement, tu peux soutenir si les gens s'expriment et ont besoin de soutien, pourquoi pas, mais prenez pas leur place. Je veux dire, c'est bon. En fait, il faut partir du principe que les gens n'ont pas besoin qu'on les représente. Tu vois, ils n'ont pas besoin qu'on prenne leur parole une fois de plus pour la porter.
Non, clairement, le chourer,
avoir un peu d'humilité. Voilà. C'est pour ça que je me moquais gentiment, tu vois, on en disait la dernière fois, mais c'est pour ça que je me moquais gentiment des gens qui ont un peu back-up Lily Gladstone. Et que j'avais mis une image de The Curse, tu sais, la série, la fameuse série The Curse, parce que sur le coup, The Curse, c'est vrai qu'on se disait, c'est vrai que c'est un peu balourd, c'est un peu cliché, ça se regarde le nombril, jusqu'à ce que la réalité dépasse la fiction, en fait.
La fiction, et ouais, voilà, c'est ça.
Voilà, quand j'ai vu Emma Stone applaudir de toutes ses forces au Golden Globe Lily Gladstone, je me suis dit, putain, mais en fait, voilà, on l'a en vrai, quoi, c'est terrible. Et que j'ai vu plein de gens dire, je vais venger Lily Gladstone parce qu'elle n'a pas eu l'Oscar. Mais Lily Gladstone elle-même, elle n'en a pas parlé. Laissez-la d'abord parler, en fait. Ouais. Je veux dire, tu vois, tu peux pas encore une fois. Je sais que ça part pas d'une mauvaise intention, mais il faut pas prendre leur place. Il faut pas parler à la place des gens concernés. Vraiment, il faut arrêter ça. C'est gênant. Et du coup, tu fais du néocolonialisme. Tu t'en rends pas compte. C'est terrible, quoi. Donc, en fait, ce film, c'est ça. Voilà, c'est littéralement
ouais,
sur
ouais,
une personne,
ça.
Quoi.
Ouais, clairement.
Qui pense avoir un regard plus avisé que le premier concerné sur un sujet qui ne les concerne pas. C'est assez terrifiant.
Non, clairement.
Donc, voilà.
Non, clairement. Bah, écoute, t'as dit plein de choses. Et effectivement, bon, je vais juste revenir un petit peu sur le contexte de prod. En fait, comme tu disais, de toute façon, c'est un projet qui vient de Nick Vallelonga, qui était aussi acteur et scénariste, hein, du coup. Son père, en fait, le Tony Lip, qui est dans le film, en fait, est devenu au fur et à mesure, avec, en fait, par inadvertance, on va dire, du fait qu'il était dans la mafia italienne, il s'est retrouvé chez Scorsese. Ouais. En figurant, puis il est devenu acteur, puis il a fini dans Les Sopranos.
Ah oui, c'est...
En jouant un des boss de Tony Soprano, en
c'est
fait.
C'est un des réguliers, ouais. Et il joue le boss de New York, je
Carmine.
Crois, à un moment donné.
Ouais, c'est ça, Carmine.
C'est le boss de New York.
Et c'est assez ouf de se dire que voilà.
Carmine.
Il y a ça, tu
Carmine,
vois.
Pas Carmine, Carmine.
Carmine, pardon, excuse-moi, désolé. Ouais, excusez-moi,
s'il te plaît,
pardon.
S'il te plaît,
touche pas mon italien. Et effectivement, après, bah voilà, lui, son fils donc Nick, il a fait des boulots d'acteur. Enfin, ça a été très très petit, tu vois. Et il a écrit ce scénario de sa légende familiale, effectivement racontée par son père et un peu embellie. Et par le biais, en fait, il a proposé son scénario, son script, du moins, à plein de studios. Et en fait, c'est tombé chez DreamWorks. DreamWorks s'est dit, tiens, c'est pas mal, on va le retravailler le script et c'est en fait plein de réalisateurs ont refusé. Mais il dirait pas les noms, mais il y a eu plein de réalisateurs qui ont refusé.
Ah, mais
le projet.
Comprends, les mecs, ils ont dû dire oh, non. Là,
et c'est tombé. Et c'est tombé. Alors, je ne sais pas pourquoi, chez Farrelly qui s'est dit, c'est son premier film qu'il réalise tout seul d'ailleurs. Parce que d'habitude, ils sont toujours en duo avec son frère. Et là, c'est son premier film où il se dit peut-être que, voilà, on avait déjà un petit peu évoqué dans le chat.
Farrelly qui s'est dit, c'est mon moment.
Pantin.
Il s'est dit, c'est mon moment.
Exactement.
Et d'ailleurs, il a chopé l'Oscar avec cette merde. Tu vois, donc, bon.
Parce que pourquoi, tu vois, il y a aussi, alors, il y a le côté white saviorisme, effectivement, mais c'est aussi parce que, actuellement, enfin, à cette époque-là, du moins, pendant la production, il y avait cet événement où, effectivement, on avait, le peuple américain, enfin, les Américains avaient élu Donald Trump, donc un mec d'alt-right.
Bien sûr.
Complètement. Et pour le coup, en fait, il y avait ces États-Unis qui étaient un peu, désolés d'avoir ce con-là en tant que président. Et pour le coup, l'industrie hollywoodienne, l'élite intellectuelle, j'ai envie de te dire, américaine, s'est dit, on va essayer de trouver des excuses ou essayer de dire qu'on n'est pas tous comme ça. Tu vois, not all of American.
C'est un truc récurrent. Cette année, ils ont découvert justement le massacre de la communauté aux âgés parce qu'ils ont vu un Scorsese, donc tu vois, ils sont...
Oui, voilà, ouais.
Non, mais voilà, et tu vois, ils y pensent plus, et dans une semaine, ils ont oublié, mais voilà.
Oui, bien sûr.
Contre qui gagne Green Book, d'ailleurs ? C'est ça, la question.
Faudrait que je revérifie, parce qu'en tant que meilleur film, attends, je l'ai, j'avais la liste. Il était en face de... Alors, attention, Black Panther, Black Klansman, de Spike Lee.
Alors, qui va choisir
excellent. Pour le coup, Black Klansman, c'était incroyable.
Spike Lee, des fois, il est un peu relou par rapport au fait qu'il y a beaucoup
sûr.
De blancs qui traitent des sujets qui... Tu vois, par exemple, il avait gueulé sur Bigelow au moment de Détroit. Mais le fait que Spike Lee perde contre Green Book, mais je pense que ça a dû le tuer, le pauvre. Quoi.
Et tu sais qu'il y a une fun fact par rapport à cette cérémonie, c'est qu'il s'est barré.
Ah ouais, non, mais attends, mais c'est normal.
Quand Green Book a eu le meilleur film, lui, il s'est cassé. Il s'est dit, bon, allez, niquez vos mères. Voilà, il s'est barré.
Enfin, Spike Lee, quoi.
Ouais. Attends, mais il y avait festival.
C'est le type qui a fait 12 Heures Racing et tu vois, je veux dire, c'est compliqué, quoi.
C'est le mec le plus concerné par cette question-là, tu vois.
Moi, je suis d'accord sur le fait que je trouve pas que Black Klansman soit ce qui est fait de plus brillant. Hein. Je pense qu'il aurait dû l'avoir. Il aurait dû avoir beaucoup de récompenses avant sur beaucoup de choses, tu vois.
Avant, voilà. Bien sûr.
Oui, il en a eu. Hein.
Ouais, Black Klansman, ça reste quand même un excellent film.
Être Spike Lee, perdre contre Green Book, mais t'imagines, mais il y a de quoi jamais se relever, quoi. Enfin,
c'est quasiment, tu vois, c'est presque un doigt d'honneur, finalement. Et je pense qu'il a pris comme ça.
Non, mais vraiment, mais ça se demandait, ça n'est pas réellement. Non, mais vraiment, enfin, je veux dire.
oui.
Non, mais qui a eu cette idée, quoi. Non, mais j'avais complètement oublié cet épisode, quoi. C'est encore pire. Ça rend le film encore pire. Je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Green Book, il a gagné contre le film de Spike Lee de cette année-là. Enfin, c'est...
Qui était quasiment un film qui parlait un peu de... Enfin, qui était sur le même... Un peu sur le...
Ah bah, ouais, quand même. Ouais, oui.
Complètement sur le même sujet. Non, bon, et avec...
Par rapport à ce que Spike Lee représente. Tu vois je...
Oui, non, mais clairement.
C'est très étrange, là, quand même. Ah ouais. Ouais, bah, tu vois, j'avais oublié. Ça rend ça encore pire.
C'était une cérémonie chelou parce qu'il y avait plein de films qui voulaient choper son Oscar, tu vois. Il y avait alors la favorite de Lantimos que j'aime
mais
bien.
Même Black
moi,
Panther
bien,
était plus légitime. Non mais vraiment.
À la limite, oui, non mais bien sûr à choisir.
Attends,
c'est pas
même...
fini. Il y avait dans le bordel, il y avait Vice qui est aussi un film à Oscar malgré la qualité du film. Hein.
Ah moi j'aime bien. Vice, hein,
mais c'est quand même voilà un film à performance encore une fois, méthode acting à la con.
Ah, c'est un film à prothèse.
c'est un film à prothèse.
Film à prothèse.
Voilà, exactement. A Star Is Born aussi, on en avait parlé dans Shitlist. Il était dans les meilleurs films. Il y avait Bohemian Rhapsody et il y avait aussi Roma d'Alfonso Cuarón.
Oui, qui pour le coup aurait largement mérité d'être devant aussi. Après,
mais
Roma,
films,
bon,
vois,
il avait ce côté exclu Netflix aussi qui le sortait un petit peu.
Oui, Mais qui le, qu'il avait peut-être quelque part à baiser.
Clairement, c'était pas la peine.
Mais ouais, c'était assez fou. Donc, Oscar du meilleur film, Oscar du meilleur scénario original pour Nick Vallelonga. Donc, il a eu un Oscar pour raconter la légende de sa famille.
Ah ouais, en plus, il a pris...
Et Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Mahershala Ali. Alors, qui, lui, on en parlait de la famille de Shirley.
Il s'est excusé, ouais.
Il s'est excusé en disant...
J'ai fait du mieux que j'ai pu avec le matériel qu'on m'a donné, ouais.
Voilà. Et ce qui est un peu une excuse de bâtard aussi.
Alors... Oui, certes. Je pense qu'à un moment donné, il était quand même conscient du contexte. Hein.
Conscient.
Ça va bien s'amuser.
Il tournait les scènes, il savait là où il allait. Quoi.
Après, on peut pas lui reprocher non plus. Lui, je pense vraiment qu'il a fait ce qu'il a pu d'un autre côté. Tu vois, je veux dire, moi, je reprocherais à Viggo Mortensen non plus. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire, c'est, tous les deux.
Viggo Mortensen, en parlant de méthode acting, moi, il m'a fait.
Alors,
rire,
par contre, Viggo Mortensen, il a fait une énorme bêtise. Hein. Et il a quand même lâché un N-word pendant la promo du film pour dire qu'il. Voilà, il a fait
c'était
des.
C'était un question-réponse. Il me semble que c'était un question-réponse suite à la diffusion du film. Lui, en fait, il était sur un sujet glissant parce qu'il parlait d'un truc qui ne le concernait pas. Et il a glissé sur un truc vraiment où tu t'aventures pas quand t'es blanc.
Non, tu vas pas.
Et du coup, il y allait avec les deux pieds.
Là. Ouais. Mahershala Ali, qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi. Il a fait ce qu'il a pu. Hein. Et puis le pire, c'est que, tu vois, on en parlait tout à l'heure, le problème en plus, c'est que de temps en temps, leur duo, ils fonctionnent parce qu'ils sont bons, tu vois. Lui, tu les mets dans une pièce vide tous les deux, ça marche. Hein, tu vois, ils sont talentueux, quoi. Donc, de temps en temps, t'as un espèce de tempo comique, est-ce qu'il est volontaire ou involontaire, qui s'installe et ça peut marcher, tu vois. Mais c'est tellement gênant les trois quarts du temps que t'oublies ça, quoi. Mais sinon, leur duo à eux deux, il pourrait fonctionner, quoi. Tu vois, s'il n'y avait pas tout ce truc un peu dégueulasse derrière.
C'est plus ce que je voulais dire par rapport à Grimbaud. En fait, le film a carrément fonctionné, hein, parce que c'était... Alors, on part sur un budget de 23 millions, mais je pense que tu peux doubler avec la com. Il a quand même rapporté 318 millions et rien que 35 millions au box-office américain. Donc c'est vraiment aussi le film à traquenard pour choper de l'argent facilement, tu vois, aussi.
Ah bah clairement,
et 2 millions d'entrées en France. 2 millions d'entrées en France qui sont sorties de la salle en disant « Touche pas mon pote ».
Ah bah ça, mais ça c'est le cinéma qu'on aime, tu vois, je veux dire...
voilà, on est là pour soutenir ce genre de cinéma. C'est pareil, tu vois, Intouchable, c'est pareil, c'est un film... première vue vision, tu sais, quand t'es en 2011, tu te tapes dedans, tu dis « Waouh, c'est incroyable, c'est un super film ». Et effectivement, sur les années après, où tu commences à avoir des relectures, où tu commences à réfléchir sur le truc, le sens, c'est compliqué. Et Green Book, ça a été pareil, parce que moi, quand je l'ai vu en 2018, le premier visionnage, j'étais là, ouais, c'est bien.
Wow,
et je me suis fait avoir aussi. Je me suis fait avoir, moi, tu vois, par les 5 dernières minutes, par le repas familial, par Cara Delevingne, par ce regard un peu touchant qu'elle balance à Shirley. Tu vois, là, je me suis fait avoir. Tu vois. Mais maintenant, effectivement, à revision, il y a plein de problèmes.
Bah, alors, je ne sais pas,
juste sur la forme rien que du film, sur la forme technique, déjà, c'est plat, mais le rythme du film, et c'est long. Je vous avais envoyé en plus un message en disant, les mecs, il est 30 minutes, j'ai l'impression que c'est 1h30. Quoi. Et je crois que c'est un des rares films qui m'a fait sentir une plus grande pesanteur que ça. Tu vois. Et c'était assez fou. C'était assez fou sur là-dessus, ça m'avait tué. Mais voilà, et effectivement, je me suis fait avoir. Tu vois, je fais partie de celui qui s'est fait avoir au début. Et effectivement, quand je reviens, quand tu te renseignes, parce que c'est pareil, il y a eu des chercheurs américains qui ont parlé de ça, qui ont développé pourquoi ce genre de film est absolument abominable, en fait, parce que c'est pas légitime, si tu veux.
Oui, bien sûr.
Et c'est super intéressant d'avoir ce truc-là de relecture, après, de te dire, mais attendez, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont comme ça, et que, en fait... franchement, non, quoi. Enfin, parlais d'Oscar avec Lily Gladstone, et moi aussi je trouve ça ridicule. Je fais, mais les gars,
non, mais moi je sais qu'il n'y a pas de volonté de nuire ou quoi que ce soit. Voilà, je sais juste que non, mais vraiment, les gens,
non, c'est l'extrême bienveillance. Tu vois, c'est l'extrême bienveillance.
Je sais qu'il n'y a pas de volonté de nuire. Après, moi ça me gêne un petit peu, et en plus, je vous dis ça en tant que je suis pas vraiment concerné. Je veux dire, moi, mon ascendance à moi, on la voit pas. Tu vois, ma binationalité, personnellement, elle dérange personne. Hein. Moi, vous savez, les gens ne la remarquent
même
pas.
Moi, ça me dérange que tu sois catalan.
Non, mais les gens ne la remarquent même pas. Moi, si je croise un faf, il me dit « Boto, tu peux rester, il n'y a pas de problème. » Donc, voilà. Donc, je ne suis pas concerné par ça, moi. Mais voilà,
Marvin le sauciflard.
Je trouve toujours ça un petit peu gênant. Voilà.
Oui, bien sûr.
Bon, j'ai tendance à penser que peut-être les gens devraient laisser les gens concernés s'exprimer avant de prendre la parole à leur place.
Alors...
Le problème, c'est que t'essaies de bien faire et puis tu fais mal parce que sans te rendre compte, tu reprends ta position dominante.
Alors après, c'est pas vraiment où tu réfléchis, où tu te dis, est-ce que si c'était un réalisateur afro-américain, qui avait pris le cinéaste du projet, ou c'est la production qui était dans ce sens-là, qui était en majorité afro-américaine, est-ce que le film a eu les mêmes lauriers? Est-ce qu'il aurait eu la même plébiscite? Est-ce qu'il aurait eu la même vente?
Bah écoute, je sais pas quoi te dire.
C'est une question à se poser aussi, tu vois, et c'est ça le problème aussi, tout le problème du système hollywoodien quelque part. C'est un système qui est très étriqué et qui favorise effectivement.
Après, déjà, j'ai envie de te dire, est-ce qu'un réalisateur afro-américain aurait accepté de faire ce film selon le point de vue du fils de Tony Leib? Bah non, en fait. Donc je pense que la question.
Non, je pense qu'il l'aurait éclaté. Ouais,
c'est-à-dire que de toute façon.
Un Steve McQueen, un truc comme
McQueen,
ça, lui, il aurait fait.
Spike Lee, tu vois, bah en vrai.
Ouais,
c'est pas pour ça que tu les retrouves pas là. C'est bien pour ça que tu les retrouves pas là-dedans. Et ça pouvait pas être le cas, quoi. Donc. Bah, je pense que de toute façon, l'histoire telle qu'elle est racontée, elle aurait pas pu être racontée par un réalisateur afro-américain, en fait. Donc, il y a même pas de...
Clairement pas.
Et bon...
Clairement pas, je pense qu'il aurait pris ça comme une insulte, aussi.
La preuve étant qu'ils ont choisi de récompenser ce point de vue-là, donc bon, voilà.
Oui, non, bien sûr. Non, oui, et c'est...
Parce qu'après, le film en lui-même, en plus, c'est pas terrible, je veux dire, c'est rythmé assez bizarrement. C'est vraiment fait pour appâter le public du film à Oscar, dans le sens où... c'est une succession de scènes qui te montrent des problèmes vus 100 000 fois. Le film, en plus, appuie très très fort à grands coups de piano et violon sur les moments qu'il voudrait rendre émotionnel, tu vois. Enfin, je veux dire, limite, t'as une petite pancarte qui te dit quand tu dois chialer. Non, mais vraiment, tu vois, donc tout est assez délicat. Il y a quelques moments un peu drôles, tu vois, qui font un peu mouche, encore une fois, parce que tous les deux, ils sont bons. Et que t'as l'espèce de d'austérité de Mahershala Ali qui marche assez bien, quoi. Je trouve que il est un peu drôle,
la retenue qu'il a.
Mais sinon, bon, le film il est rythmé n'importe comment, et puis il appuie beaucoup trop sur ses effets, voilà, tu vois, il te prend trop par la main pour te dire regarde, c'est maintenant tu dois pleurer quand la femme de Tony Leib elle prend l'autre dans ses bras, lui dit merci pour les lettres et tout, enfin, genre de
les lettres,
voilà. Et puis en plus, tu vois, le problème, c'est que t'étais pas obligé de le caractériser absolument comme un gigantesque teubé, quoi. Parce que c'est ça aussi le problème. C'est que c'est un total abruti dans le film, Tony Leib.
Un connard, même. Gros connard.
Oui, mais surtout un idiot. Et en fait, j'ai l'impression qu'on te dit ça aussi, tu vois. Il est pas raciste parce qu'en fait, il est complètement con. Donc, du coup, ça va, quoi. Mais en fait, non. Tu vois. Non, mais c'est vrai, t'es obligé de rattraper ça comme ça. C'est-à-dire, il est complètement abruti, il écrit ses lettres mot à mot comme un débile et tout.
C'est la dynamique inverse d'Intouchable.
Voilà,
c'est-à-dire
que
Omar Sy est joué par Viggo Mortensen et François Cluzet est joué par Mahershala Ali. Tu vois le délire ou pas?
Bah ouais, voilà, c'est ça. Et tu vois, c'est super bizarre. Ils ont essayé de faire accepter ça un petit peu comme ça, puisque pour le coup, le mec complètement limité, bah c'est lui, quoi. Tu vois. Et le fait étant que c'est pire, parce qu'en étant totalement limité comme il l'est, bah, c'est quand même lui, quoi, qui arrive à apprendre des choses à un mec qui a tout pour lui, quoi. Je pense que c'est vraiment de plus en plus gênant au fur et à mesure du fait que tu déroules le truc, hein.
On a parlé de l'homosexualité qui a été inventée, on a parlé du poulet frit,
on a parlé de sa relation à la communauté afro-américaine qui a pour le coup été aussi inventée. Je veux dire, tout ce qui fait du film, tout ce qui fait le plot du film est faux.
Ouais, bien sûr. Mais c'est dur. Le truc aussi, je pense, le point final aussi qu'on pourrait ajouter, c'est une des scènes qui est quand même assez lunaire. C'est que Viggo Mortensen, à un moment donné, Tony Leib va dire à Shirley, moi je suis plus noir que toi.
Ah, mais il y a ça.
Dans le sens où lui est un afro-américain, entre guillemets, qui est aisé, donc il ne vit pas la pauvreté du monde, donc la vraie condition des afro-américains. Tu vois, il dit ça dans ce sens-là.
En fait, c'est le moment où t'as justement cette espèce de faux plot qui est. Où Shirley se dit, mais moi, vous voyez, je suis victime du racisme, alors oui, c'est vrai, et en même temps, je suis victime presque d'un racisme intracommunautaire, parce que vu que je suis pas comme les autres noirs, ils m'acceptent pas, donc ce qui est faux, et là, t'as l'autre qui lui dit, mais moi, regarde, moi, j'habite à Brooklyn, je crois, hein, c'est ça, je sais plus où, non, j'ai grandi dans le Bronx, Moi, je m'assois pas sur un trône. Moi, tous les jours, je galère à payer mon loyer, à chercher du travail, donc c'est moi, au final, moi, je suis plus black que toi. Il lui dit ça comme ça, voilà, littéralement. Ça. Je suis plus black que toi. C'est la traduction littérale. Hein. Pardonnez-moi, mais c'est comme ça. Et du coup, je pense qu'on a tout compris, en fait. Qu'on a besoin, en sachant que cette scène-là, elle arrive peu de temps après d'autres scènes très gênantes. Voilà, encore une fois, hein, le coup du mais écoutez, ça arrête à Franklin, c'est Little Richard, mais c'est vos congénères, écoutez-les, tu vois. Et l'autre, il écoute à chaque fois, il dit ah oui, c'est vrai, je connaissais pas, c'est pas mal. Enfin, moi, je sais pas comment on peut être plus gênant. Hein, je.
Bah, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est la dernière question, c'est est-ce que Green Book mérite la shitlist?
Ah oui, non, mais vraiment, il n'y a pas beaucoup de... il n'y avait pas, pas grand-chose à sauver. Voilà, je suis désolé pour les fans de Green Book et de la ligne verte qui vont hurler parce qu'ils aiment bien le café, parce qu'il est gentil. Mais c'est, vous êtes les mêmes, quoi. C'est pas possible, quoi. Tu peux pas faire ça comme ça. Non, moi, j'ai pas de problème à ce qu'on raconte cette histoire, mais tu peux pas faire ça comme ça. Non,
vraiment. Il faut avoir du recul, quoi.
Il faut pas toucher à ça comme ça. Il faut laisser les gens qui devaient le faire, tu vois. Ou alors, il faut pas que ça se fasse, voilà, tout simplement. Mais non, il faut pas. Et puis, il faut en plus tout ça pour gratter des Oscars, un succès monumental, parce que les gens se posent pas de questions, tu vois. Je veux dire, non, c'est pas possible. Non. Et puis, en plus...
Dans la shitlist.
Et même si tu sortais tout ce truc-là gênant, le film est toujours pas bien. Donc, non, mais pas...
non, mais oui,
là. Non, parce que ça, on le dit pas, mais si tu l'enlèves, c'est quand même nul, tu vois. Je veux dire, c'est une espèce de fresque américaine qui se voudrait classique, encore plus classique que Forrest Gump.
Tu disais avec la musique d'Alexandre Desplat.
Et qui porte toujours bien son nom, comme on le dit.
Tu t'ennuies. Hein. Nul, quoi.
Mais c'est une fresque. Tu sais, c'est encore plus classique que Forrest Gump ou ce genre de truc. Enfin, c'est voilà, quoi.
Donc, pour Marvin, c'est dans la checklist. Et bien sûr, moi aussi, je l'ajoute avec un bucket de poulet frit dedans. Bim. Voilà, pour enfoncer le clou. Voilà, pour enfoncer le clou.
Après, moi, j'aime bien le KFC, voilà. Pas de problème.
Oui, non, mais bien sûr.
En vrai, j'aime bien le KFC, voilà.
Bien sûr.
Je culpabilise pas quand j'en mange, hein, franchement. Non, mais c'est vrai, tu vois.
Allez. Merci, Marvin, d'être avec nous pour parler de films. Touche pas, mon pote, c'est incroyable. Putain, on est vraiment trop gentil, trop sympa, Team Bienveillance, tout ça. Soutenez-nous, bien sûr, sur Patreon. Le forfait à 3 euros chez Prime, le forfait à 5 euros chez Les Plus, le forfait à 10 euros Hall of Fame. On remercie notre nouveau donateur, Léo Darcourt Garant, qui nous donne 5 euros. Merci à lui. Et on remercie le Hall of Fame, Seth Natch, Will Steed, Jerry.
Et si jamais vous avez un voyage à faire en voiture, on peut être vos chauffeurs. On va rajouter ça au... palier Patrick.
Ah oui, effectivement.
Alors, on peut
voilà,
conduire.
Exactement. On peut vous emmener. On peut vous faire voyager en France, effectivement.
Effectivement, et on peut faire des podcasts de dans la voiture, du coup. C'est très cool.
Si vous donnez beaucoup d'argent, bien entendu, hein, voilà, il n'y a pas de problème, on peut faire.
On peut faire.
On a un dispositif, on peut le mettre en place. Alors, il ne faut pas oublier quelque chose, Marvin. On a quelque chose de prévu, justement, dans notre grande ville, qui est Paris, où on va faire un live le vendredi 12 avril à Paris, au Club de l'Étoile, pour voir Les Ailes de l'Enfer en VF. En 35
mm. En 35 mm, je veux dire, dans les conditions voulues par le réalisateur, évidemment.
Ah oui.
Je pense que vous vous rendez compte de l'absurdité de la chose. C'est totalement fascinant, en fait.
Si vous n'avez pas vu Les Ailes de l'Enfer, je vous conseille de venir parce que vous allez prendre une vraie branlée. Pour le coup, c'est cinématographique. Vous allez apprécier ça. Si vous êtes fan du film, n'hésitez pas à nous venir. Alors, c'est à 19h30. Il y aura un apéritif.
Et un apéro, à 20h ça commence.
Et un apéritif.
Et après,
à 20h ça commence. Et après, on enregistre un podcast en live. On sera toute l'équipe voilà, pour parler avec passion de Simon West et de ce film incroyable.
Évidemment.
Ou pas, hein, ça se trouve, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui détestent, hein, on ne sait pas.
On verra.
Je n'ai pas encore consulté Karim. Mais on verra. Alors, écoutez, on verra, mais en tout cas, on sera tout ça.
Mais en tout cas, voilà, si vous êtes là, venez, ça va être rigolo.
Voilà. Non, ça va être sympa. Donc, on sera là après pour échanger si vous voulez. Voilà, il n'y a pas de problème. Au moins, vous nous verrez en live. Donc voilà, pour les petites infos. Eh bien, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour parler... Là, ça va être sympa. Là, ça va être du vrai cinéma, parce que là, ça me fait plaisir.
Là,
il n'y a plus de bienveillance.
En fait, j'ai envie de te dire que la semaine prochaine, c'est le Green Book des Kaiju, quoi. C'est la même chose, en fait. C'est le même film, mais Godzilla versus Kong. Donc, c'est le même film.
C'est la team bienveillance. C'est la team bienveillance entre Godzilla et King Kong. Oui,
alors je ne sais pas qui aide
c'est
qui.
C'est Godzilla versus Kong. Comment ça s'appelle.
Pour le coup, je ne sais pas qui aide l'autre à devenir un meilleur kaiju. Alors ça, faudra en parler.
Il y aura un débat.
Et en tout cas, tous les deux, ils se tirent vers le haut, quoi. Clairement.
Voilà. Ils voyagent en voiture ensemble au sud des États-Unis dans les années 60. T'imagines.
Voilà. Mais tous les deux, ils apprennent des choses de l'autre.
Voilà. Donc, pour devenir meilleur. Pour important. Devenir encore des kaijus encore mieux qu'ils
voilà.
le sont déjà.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Tu l'as vu le film encore ou pas encore?
Mais non, je vais le découvrir ce week-end, t'inquiète pas, je vais prendre excellemment plaisir. Et puis on est déjà vendu par la bande-annonce du prochain.
Ah bah clairement.
Clairement nous c'est Day One.
Moi depuis que j'ai vu Godzilla courir, j'ai envie de te dire, c'est bon, c'est bon.
Ah moi c'est. Dommage qu'on n'a pas la 4DX parce que moi j'aurais payé mon siège quoi.
On a vu Minus One en 4DX.
Ah oui, donc oui. Ouais. Ça va le dos, ça va pas trop...
À ce point-là, un 4DX, au point où j'avais Stéphane Boulet sur le siège derrière moi, d'ailleurs. Dire à quel point il y avait un...
La 4DX, incroyable.
Ah bah là, c'était la 5DX. Hein.
Donc King Kong versus Godzilla la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Blue Sky, TikTok, Discord, plein de choses comme ça.
Voilà.
Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut à tous. Ciao, ciao.
Salut.